Hello and welcome to Illy's Coffee Talks, new season, the podcast about self-development, health, and spirituality. I am Ophélie Cabanero, your host. Enjoy the episode. Bonjour Mélina.
Bonjour Ophélie.
Merci de te joindre à moi aujourd'hui pour un podcast sur le thème à nouveau comment garder une vibration haute, comment être en bonne forme mentalement et physiquement.
Comment remonter ses énergies lorsqu'on se sent à plat.
Oui. Et je sais que tu vas commencer en beauté et j'aimerais juste dire, tu es naturopathe en Alsace et tu fais des consultations principalement en ligne en ce moment.
C'est ça. Bien. Déjà, moi, je te remercie beaucoup. Justement, je voulais te remercier du coup de m'avoir proposé ce podcast. Je suis super contente qu'on puisse discuter toutes les deux aujourd'hui et pouvoir apporter plein de conseils et de petites astuces pour aller mieux dans sa vie.
Super, je me réjouis d'entendre aussi ce que tu as à dire.
Moi aussi. Alors, du coup, moi, en fait, je voulais commencer par parler du fait que se sentir à plat, pour moi, en fait, la petite définition que je voulais donner, c'est de manière assez générale, quand on sent que physiquement, on est fatigué, on est épuisé, le matin, on a du mal à se lever, on n'a pas trop envie de commencer sa journée, on sent qu'il y a tout qui nous énerve, on n'a plus de motivation, plus très envie, et puis souvent aussi, c'est pas que physique, mais c'est aussi dans la tête, on a un peu du noir, on est fatigué. En plus, c'est quelque chose, souvent, en hiver, avec le manque de lumière, on est encore plus dans cet état-là. Et puis sans parler forcément avec la situation actuelle depuis 2020 où on est tous souvent un petit peu plus facilement à plat. Et donc en fait, moi je voulais commencer par dire que c'est normal de se sentir comme ça et que c'est hyper important en fait de se déculpabiliser. Parce que la société, elle a quand même assez tendance à pointer du doigt en fait ce genre d'état. Ouais. Souvent, on va nous dire que non, il faut toujours être au top, il faut toujours être en forme, il faut être motivé et se sentir un peu moins bien. Ou par exemple, même ne pas trop sourire et être un petit peu dans sa bulle, c'est hyper mal vu. Et en fait, ça, je voulais commencer vraiment par dire que à tout le monde, vous avez le droit de vous sentir fatigué, de vous sentir épuisé, d'en avoir marre de tout, d'avoir juste envie de tout envoyer balader et de rester sur son canapé avec une couverture. Ouais. C'est normal. on peut pas toujours en fait être au top de sa forme. Et je trouve que c'est super important de le dire.
Ouais.
Parce que on est quand même en train du coup de parler un peu d'un sujet de développement personnel et je trouve que dans le monde du développement personnel, on a un peu trop tendance à montrer une image très lisse, très parfaite, alors que c'est pas du tout réaliste. et au final, souvent en fait, ça permet en fait un peu de descendre encore plus dans ces énergies un petit peu de fatigue et de manque d'estime de soi parce qu'on se dit moi j'arrive pas à atteindre ça.
C'est vrai.
Et du coup, je pense que ça aussi c'est intéressant de dire que c'est pas réaliste comme image. Et il faut se dire que c'est souvent en plus avec ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Il faut se dire que les personnes qui ont l'air toujours au top de leur forme, c'est pas le cas. Hein. On a tous des moments où on est un petit peu moins bien et ça faut comprendre. Hein, c'est tout le monde. Faut pas s'en vouloir.
Ouais.
Et en fait, je trouve que c'est super important en fait de comprendre qu'il ne faut pas essayer de l'ignorer, ça, parce que justement, on peut avoir tendance à se dire si la société, elle voit que ce n'est pas bien, qu'il faut toujours être au top, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ignorer ma fatigue, je vais ignorer le fait que je ne me sens pas bien, et puis on va garder tout ça bien au fond de nous jusqu'à, des fois, ça peut réussir quand même à passer, mais puis des fois, il y a des gens qui finissent en burn-out. Donc, c'est assez dommage. Et puis, il y a aussi le fait que c'est assez corrélé, le fait que, du coup, il y a des émotions qui nous traversent quand on se sent à plat. C'est souvent des émotions un peu plus négatives. Et ça, pareil, on a tendance à les enfouir en nous, alors que, justement, en fait, c'est pas la solution, parce qu'elles sont quand même là, et que c'est hyper important de se donner, en fait, un espace où on écoute ce que notre corps a à nous dire, et qu'on écoute aussi ce que notre cœur, il a à nous dire. J'ai déjà commencé par dire ça.
Merci, ouais. Et est-ce peut-être tu vas en parler, justement maintenant, ou est-ce que tu avais prévu de parler de comment faire pour ou toi peut-être qu'est-ce que tu fais pour écouter ton cœur et écouter tes émotions quand tu remarques ton corps ou quand tu vas pas très bien mentalement ou physiquement?
Je peux commencer à parler justement de cet aspect un peu plus psycho-émotionnel parce que c'est vrai que Moi, ce que j'avais pensé, c'était en fait de parler un petit peu en deux parties, parler d'un côté un peu plus, un peu un aspect un peu plus physique, un peu plus physiologique, et un aspect un petit peu plus, du coup, mental, émotionnel, et c'est vrai qu'on peut commencer par ça. Alors forcément, je tiens à dire que tout ce que je vais dire, c'est des clés qui sont assez généralistes. Évidemment, il y a plein de choses qui existent, plein de solutions, plein de techniques, mais on n'a pas forcément le temps de parler de tout, puis je ne connais pas tout non plus, on a toujours des choses à découvrir. Et aussi, c'est important de comprendre que c'est pas parce que je vais dire certaines choses que ça va forcément parler à tout le monde. En fait, il faut savoir justement que si c'est très vaste, c'est aussi parce qu'on pour qu'on puisse chacun choisir qu'est-ce qui nous convient. Et alors, moi, en fait, par exemple, c'est quelque chose... écouter son corps et écouter son cœur, c'est quelque chose que je savais pas forcément vraiment faire non plus avant de faire mes études pour être naturopathe. Parce que forcément, c'est vrai qu'on nous apprend pas vraiment ça. On nous apprend à toujours être au top et à essayer d'ignorer, surtout quand c'est des émotions, par exemple, négatives. Ça, après, forcément, c'est encore un autre sujet de conversion qui serait super intéressant sur l'éducation et comment on est un peu conditionné là-dedans. Mais en fait, je me suis rendu compte avec les études petit à petit que notre corps, en fait, il a tellement de choses à nous dire. Si on lui laisse juste des fois un tout petit temps pour s'exprimer, ou plutôt même parce que souvent il s'exprime, mais on essaye de l'ignorer parce que des douleurs, c'est une manière à notre corps de s'exprimer. Hein. Quand on a mal quelque part, par exemple, je sais pas, la digestion qui est en vrac, on sent son cœur qui commence à battre, la sensation de stress qui vient, ça, en fait, souvent on ne le conscientise pas vraiment, on se dit oui, c'est là. On ne se rend pas compte que c'est notre corps qui essaie de nous parler et de nous dire « Hey, il y a quelque chose là qui ne va pas. » Et souvent, on a un petit peu, on a un peu la solution de « Bon, je sais pas, je vais aller me faire une tisane ou je vais aller prendre un médicament ou je vais… » Voilà, on va essayer de couper le message. C'est un peu comme si on avait quelqu'un devant nous qui veut nous parler et nous, on lui dit « Non, non, mais stop, là, je n'ai pas le temps pour t'écouter. » Et en fait, moi, ça a un peu été assez miraculeux de me dire « Ah bah non, en fait, du coup, c'est mon corps qui essaie de me dire quelque chose quand je ne suis pas bien. » Et ça change tout. Parce que du coup, on se remet un peu plus en question. On se dit, OK, bon, alors là, pourquoi je me sens comme ça? Et en fait, c'est justement apprendre à remonter un peu ses énergies. Ça passe par apprendre un peu à mieux se connaître et à s'écouter. Et à prendre un peu de temps pour soi. Alors, je sais, hein, c'est pas facile. On répète tout le temps partout. Il faut savoir prendre du temps pour soi. C'est pas facile. Je suis d'accord. Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte non plus, c'est qu'on a souvent une notion du temps qui est assez déformée. C'est-à-dire que quand on se dit prendre du temps pour soi, on est déjà en train de s'imaginer, mais je peux pas prendre une heure. En fait, ne serait-ce que des fois 5 ou 10 minutes dans une journée. Et je pense que personne ne pourra me dire que 5 ou 10 minutes, c'est rien. Des fois, on va être sur notre téléphone pendant 15 minutes en train de se perdre. Enfin, 15 minutes, je suis gentille, mais une fois, on ne voit pas l'air passer, c'est beaucoup plus long. Donc, 5-10 minutes, on peut le faire. Alors, forcément, je vais parler de quelque chose dont on entend tout le temps parler, c'est la méditation. Mais j'ai totalement conscience que ça fonctionne pas pour tout le monde. Moi, personnellement, il y a des moments où je peux pas rester 10 minutes sans rien faire. Forcément, les pensées, hein, ça, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. C'est à force de pratiquer que les pensées s'apaisent un peu. Mais en fait, il y a des manières aussi de méditer sans que ce soit être assis avec une musique ou dans le silence à rien faire. Et il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est nourrir ses 5 sens. Ça va être une forme un peu de méditation un peu active. Et qui va justement en fait aider à se reconnecter à soi, à son corps, à ses perceptions, et aussi à remonter en fait un petit peu son énergie. Et par exemple, moi j'ai un exemple vraiment qui m'est arrivé il y a quelques semaines, ça passait par l'odorat. Je suis allée à Strasbourg faire une journée un peu balade, et je me suis perdue dans une parfumerie où ils avaient des parfums en fait qui sont assez rares, et je me suis dit waouh, je vais me faire plaisir, je connais ces parfums, ils sont très particuliers. Et je vais les sentir et prendre le temps de voir est-ce que ça me parle, est-ce que ça me rappelle quelque chose. Et alors, je me suis perdue pendant, je pense, bien une demi-heure là-dedans. Et en fait, c'est juste quand je suis sortie après que je me suis dit, waouh, en fait, c'était quelque chose d'actif. J'étais active parce que j'étais en train de sentir, en train de découvrir quelque chose. Et quand après, je suis repartie et que j'ai pris un peu le moment de réfléchir à ce qui venait de m'arriver, je me dis, oh, ça m'a rempli en fait d'énergie. Ça m'a fait du bien. Et là, du coup, c'était passé par l'odorat. Mais forcément, ça peut passer par la vue. Ne serait-ce qu'aller se balader dans la nature avec ce qu'on voit. Et quelque chose même encore plus simple que j'adore en fait dire en général, et ça passe aussi du coup, c'est plus au côté un peu alimentation, se faire des belles assiettes quand on a envie de se faire à manger. Oui, ça prend un peu plus de temps, je suis d'accord, mais des fois, ne serait-ce que rajouter quelques épices ou quelques herbes ou je ne sais pas quoi, ça change déjà tout un plat. Et rien que ça, ça fait déjà quelque chose parce qu'on se nourrit déjà par la vue. Donc, avoir ça, faire en sorte que son environnement, ce soit aussi quelque chose qui soit agréable à voir visuellement, qui nous parle et qui nous ressemble. Il y a aussi l'ouïe, là forcément, très facile, écouter de la musique qui nous plaît et qui nous fait du bien. Après, le goût, manger des choses, pareil, qui nous font plaisir. Et là, hein, je suis naturopathe et pourtant, je peux vous dire, oui, vous pouvez très bien manger un gâteau, il n'y a pas de problème. Parce que justement, manger sainement, ce n'est pas juste manger, je ne sais pas, des graines, des fruits et légumes. Bon, ce n'est pas ça. Hein. C'est justement aussi manger quelque chose en conscience et qui nous fait plaisir. Et en fait, juste le manger sans être en train de culpabiliser, juste dire, je me fais du bien. Parce que justement, je suis en train de nourrir un de mes sens qui est là, le goût. Et après, il va y avoir le toucher aussi. Et le toucher, ça peut aussi passer par porter, par exemple, des vêtements qui ont une texture qu'on trouve agréable ou, comme je disais tout à l'heure, s'enrouler dans une couverture. C'est pas forcément le toucher qui va être d'une personne à une autre, mais ça peut aussi être ça, en fait, se toucher par rapport à... Comme ça qu'on peut avoir avec un vêtement. Ou même prendre le temps de se masser les mains, de se masser soi, de se mettre de la crème. Faire en sorte, en fait, que ces petites choses, elles prennent beaucoup plus d'importance. Parce que c'est souvent des choses qu'on fait... Mais en fait, on est en mode automatique.
Ouais.
Je me fais à manger, je le fais en mode automatique. Je ne fais même pas attention à comment je mets les choses dans mon plat. Je mange parce que faut que je mange. Je sais pas, le matin, je vais mettre ma crème sur le visage, je la mets, mais hop, 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 je ne réfléchis même pas. Je ne suis pas en train d'essayer de faire en sorte de me faire du bien en le faisant. Toutes ces choses-là, en fait, et ce serait vraiment essayer de mettre... Parce que finalement, c'est quand même des choses qu'on fait dans la journée.
Oui.
C'est même pas prendre du temps en plus parce qu'on le fait. Mais mettre un peu plus de conscience quand on est en train de le faire. Et ça change tout de suite tout. Parce qu'au final, on se fait du bien. Et ce qui se passe quand on se fait du bien comme ça et qu'on fait les choses en conscience, c'est que notre estime de nous-mêmes, en fait, elle augmente. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'occuper de nous et de nous apporter quelque chose de positif, et c'est nous-mêmes. Et donc,
C'est super pratique parce que voilà, on le fait déjà et donc les gens n'ont pas besoin de commencer à penser à quand c'est que je vais pouvoir mettre cette heure de massage dans mon planning ou cette heure de ci ou de ça. Et mais comment est-ce que tu as un outil pour donner aux gens pour pouvoir être en pleine conscience comme ça dans ces moments-là?
Alors, il y a des réflexes assez faciles. Par exemple, on va prendre l'exemple du toucher où je disais le fait de se masser soi-même. Moi, ce que je conseillerais, c'est par exemple, garder une petite crème pour les mains, par exemple, sur sa table de nuit. Et le soir, c'est vraiment se dire, là, je coupe mon téléphone. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est souvent dans nos jours, c'est souvent le téléphone qui vient en fait vraiment nous happer. C'est le couper ou le mettre en mode silencieux, de sorte qu'il n'y ait pas déjà ça qui puisse venir nous enlever de ce moment présent. Et puis, si possible, le faire en fait, pour soi-même, être au calme, dans le silence. Et juste, voilà, là, je vais aller me coucher. Je prends juste le temps de prendre ma petite crème pour les mains et de m'en appliquer. Et je le fais vraiment en me disant, alors, pour être dans ce moment de pleine conscience, il y a du coup déjà le fait d'être possiblement dans le silence ou avec de la musique, hein, pourquoi pas, quelque chose de calme. Couper son téléphone pour pas être dérangé. Et justement, par exemple, quand je dis le fait de le faire le soir, là, cet exemple, c'est que pour les personnes qui, par exemple, vont avoir des enfants, vu que c'est le moment du coucher, ils vont peut-être aussi être... Du coup, il y a moins de chances d'être dérangés. Et après, ce qui est aussi possible de faire, si c'est un peu compliqué, parce qu'au niveau de la tête, il y a le petit vélo là qui continue à tourner avec des pensées qui nous empêchent d'être vraiment dans ce qu'on est en train de faire. Il y a aussi quelque chose qui peut souvent être assez intéressant, et c'est un peu se répéter comme des mantras. Et par exemple, choisir en fait une phrase qui nous motive et qui nous booste un peu. Là, par exemple, je ne sais pas si c'est avant d'aller dormir dans sa tête ou même en murmurant, si c'est plus simple, c'est se dire je ne sais pas, je suis en train de prendre soin de moi, ça m'apaise, je me sens plus sereine, je vais bien dormir. Si ça peut aider. Alors moi, je sais que moi, c'est pas forcément le mantra, ça va pas forcément ce qui va me parler le plus. Mais moi, par exemple, ça serait de la musique pour le faire. Parce que du coup, comme je suis concentrée en même temps aussi dans la musique, je me laisse vraiment un peu porter comme un petit peu une hypnose. Je suis sur le moment en train de le faire.
Merci. Ouais, c'est pas mal. Je vais essayer ce soir. Voilà, donc ça, c'était pour faire les choses en conscience et prendre du temps pour soi.
C'est ça. Après, ce que je trouve aussi qui peut être intéressant, donc si on reste toujours encore sur ce côté un peu plus psycho-émotionnel pour remonter ses énergies, ça va être en fait de faire un petit peu, comme je dirais, un peu une pharmacie mentale de secours. Et pour ça, ce serait par exemple, il y aurait quelques idées comme, donc là, on peut déjà rajouter dans cette petite pharmacie pour remonter ses énergies, de du coup essayer de nourrir ses cinq sens. qu'on pourrait rajouter aussi, par exemple, c'est faire une liste de toutes les choses. Alors ça, cette liste vaut mieux la faire quand on est bien, c'est un peu plus facile. Mais de toutes les choses qu'on aime bien faire et qui nous remontent le moral. Que ce soit, je sais pas, regarder un film ou regarder une série qui est un petit peu marrante, faire un gâteau, bah, jouer d'un instrument de musique, danser, même si on n'est pas inscrit en cours de danse, mettre de la musique et danser chez soi, faire le ménage en dansant, je ne sais pas. Et donc faire une liste comme ça de toutes les choses qu'on aime bien faire et vraiment le faire à l'écrit, hein, c'est encore mieux parce que des fois comme ça on tombe dessus, on se dit ah bah oui, c'est vrai, ça c'est pas mal. Et puis prendre le pli pour le faire, je veux dire, ça aussi c'est encore une notion qui est très ancrée par rapport à ce que je parlais tout à l'heure, le fait de culpabiliser quand on ne se sent pas bien, c'est qu'en plus on culpabilise de prendre le temps pour s'occuper de soi, comme si c'était une perte de temps. Et ça paraît, c'est un truc assez incroyable parce que finalement, on se rend compte très souvent que notre personne, on la met de côté. On n'est pas le plus important.
Et tous les autres sont plus importants que nous.
C'est ça.
Et ça, moi j'ai beaucoup ça, hein, la culpabilité, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Aussi, je le vois avec les gens que j'ai en coaching. Et que j'ai moi-même, quand je me rends compte, ah ouais, là, par exemple, quand on a nos règles, typiquement, bon, moi, il faut vraiment que je me repose, sinon ça va vraiment pas. Et je me dis, ah, mais il faudrait que je travaille, ah, mais il faudrait ci, ah, mais il faudrait ça. Et quand j'étais encore en entreprise, de prendre un jour de congé, j'osais même pas dire que c'était à cause de mes règles que je prenais un jour de congé. Et finalement, avec les autres, on était toutes d'accord que ça devrait être presque quelque chose que l'entreprise nous offre si on en a besoin, quoi. Parce que tout le monde en souffre un peu. À moins que, bien sûr, tu prennes des médicaments et là, ça enlève la douleur. Mais bon, moi, ce n'est pas mon but. Parce que, comme tu disais avant, j'imagine que c'est le corps qui est en train de te faire passer un message. Donc, je l'entends bien. Je veux vraiment l'entendre jusqu'au bout.
C'est super intéressant tout ce que tu viens de dire parce que ça me fait penser à plein de choses sur lesquelles je pourrais rebondir. Ben, ne serait-ce que par exemple avec le fait justement de ben, pour les femmes de manière générale quand elles ont leurs règles, c'est vrai que alors c'est quelque chose que j'aborde dans mes cercles de femmes que j'organise et en fait c'est vraiment cette notion de faut comprendre que autour de nous, en nous, il y a toujours un peu cette dualité entre énergie féminine et énergie masculine qui n'a rien à voir avec le fait d'être féminine ou d'être masculin. Hein. C'est pas du tout ça, c'est vraiment plus l'énergie en elle-même. Et en fait, l'énergie masculine, qui est du coup en général, mais c'est surtout quelque chose par rapport à la société que les hommes ils vont vraiment vivre à fond, alors que pourtant c'est une énergie qu'on a tous, hein, mais c'est une énergie qui est très linéaire, c'est-à-dire que c'est vraiment, enfin ça rebondit un peu avec le fait de faut toujours aller de l'avant, toujours aller de l'avant. Et toujours, du coup, aussi, c'est progresser. Alors que l'énergie féminine, c'est quelque chose de beaucoup plus cyclique. C'est pour ça que souvent, on fait très, très souvent le lien, en fait, par exemple, avec les menstruations, avec le cycle lunaire. Et puis, bah, par exemple, ne serait-ce que parce que justement, nos menstruations, c'est cyclique. Souvent, quand on voit, quand on le cycle menstruel, on le représente sous forme d'un cycle. Et en fait, c'est pour ça que on fonctionne déjà pas pareil. La société, elle se cale beaucoup sur les énergies masculines. Et nous, les femmes, du coup, on essaye de se caler sur cette énergie qui est beaucoup plus linéaire, surtout au niveau du travail, mais ça colle pas en fait avec ce qu'on a besoin physiologiquement. Et ce serait normalement l'idéal dans un monde idéal, la femme durant sa semaine de menstruation, il faudrait en fait que elle ait beaucoup moins en fait de choses pour la pour le enfin pas pour l'occuper, c'est pas vraiment comme ça, mais des choses en fait pour la fatiguer. Faudrait que ce soit vraiment un moment, une semaine où ce soit allégé. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas aller au travail, je ne suis pas non plus en train de dire ça, mais où on va plus doucement et on se l'autorise parce que ben, c'est physiologique, parce qu'on en a besoin et que notre corps, il est comme ça. En fait, non, on est tous vraiment parce que ben, la société, parce que la médecine de manière générale, on nous met tous sur le même. Ah oui, après, on va me dire oui, mais parce que les femmes voulaient l'équilibre des hommes, mais là, par contre, vous ne voulez pas. Bon.
C'est compliqué, hein, la vie est compliquée. Je l'ai encore vu ce matin, j'étais à l'école. Bon, c'est une petite parenthèse, mais c'est difficile de toujours savoir quoi faire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Enfin, bon, sur un autre plan, ouais, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais C'est complexe. La vie est complexe et les hommes et les femmes sont complexes, les humains sont complexes et tous différents. Donc, ouais, ça. Donc, vas-y, oui.
Bah, mais ce que tu disais, en fait, je pense que c'est aussi souvent un petit problème de. Enfin, c'est quelque chose, tout est toujours en fait lié d'une certaine manière. Il y a aussi un problème, en fait, souvent de bienveillance, c'est qu'on a du mal à faire part de bienveillance envers nous-mêmes et du coup, on a des fois aussi du mal à en faire part par rapport aux autres.
Ouais,
Et
c'est ça.
d'essayer de se mettre à leur place et de les
Oui.
comprendre parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de méchant dans l'histoire, que ce soit les femmes, les hommes ou je ne sais qui. C'est juste en fait un problème de, on ne prend pas le temps d'apprendre à se connaître et on ne prend pas non plus le temps d'apprendre à connaître le fonctionnement des autres. Et juste ça serait déjà merveilleux si on faisait tous le travail d'apprendre à se connaître. Parce qu'à partir du moment où on apprend à se connaître et qu'on voit déjà nous-mêmes à quel point on est complexe, d'un coup on se dit, ah bah oui, la personne en face, en fait, elle aussi, elle l'est. Et si elle réagit comme ça, et si elle a ces besoins-là, et tout ça, ces limitations-là, c'est parce que ben elle a vécu des choses et on s'éparpille du sujet, mais je trouve que c'est tout aussi
Non, mais
intéressant
c'est vrai, oui.
de comprendre ça.
Avoir moins de jugement envers les gens quand ils ne font pas la bonne chose, tu vois? Parce que ça arrive à tout le monde, en fait. Et voilà, la vie est complexe, les gens sont complexes et.
Oui, et l'erreur est humaine et c'est comme ça qu'on apprend. On a en fait une responsabilité sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, mais on ne peut pas être responsable de comment la personne en fait
Le
va
prendre.
l'analyser, comment elle va le prendre et comment dans sa tête. Parce que ce que j'aime bien dire aussi souvent, je dis aux personnes justement que j'accompagne, c'est on a tous nos petites lunettes. Et nos lunettes, elles n'ont pas du tout des verres qui sont transparents, elles sont un petit peu brouillées. Et on porte tous des lunettes différentes, en fait. Et souvent, ce qu'on voit, comment on analyse, comment la personne elle est en train d'agir ou de parler, c'est souvent, mais pas du tout ce que la personne, elle voulait dire, faire, ou c'était l'intention, elle n'était pas du tout là.
J'aimerais juste revenir à l'exemple, à ce que tu disais, que vu qu'on est un peu plus sur un mode de vie masculin, une
Une
énergie
société,
masculine,
oui.
que je voyais, j'étais sur YouTube et puis il y a des pubs maintenant et puis il y avait, c'est une pub pour Always, les serviettes hygiéniques. Bon, il y en a toujours eu, hein, depuis toujours. Il disait, oui, même je peux faire du sport, je peux mettre cette serviette, elle est tellement bien, que je peux faire du sport, du patin à glace et tout ce que je veux, même quand j'ai mes règles. Et moi, je peux pas, quoi.
Et en fait, là, c'est vraiment, mais c'est super intéressant que tu dis ça parce que c'est l'exemple, mais vraiment flagrant de, on essaie de nous pousser à continuer à être toujours productive, même durant cette période-là, et donc à nous culpabiliser parce que, bah, non, mais attends, on vous a donné tout ce qu'il faut pour être productive durant cette période-là, pourquoi vous ne l'êtes pas? Non, 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 c'est normal. Alors, le corps, alors, excusez-moi, mais on perd quand même du sang. Dans une autre situation, quand on voit par exemple dans un film quelqu'un qui perd du sang de autre part, je ne pense pas qu'on va lui dire bah, tu peux aller courir, voyons, tu t'es posé un patch sur ta blessure. Non. Soyons réalistes, c'est normal, le corps. Et alors, il y a aussi quelque chose qui est aussi super important, justement, pour moins culpabiliser, c'est que, en fait, quand on a nos menstruations, le corps, en fait, fait un grand nettoyage, aussi bien du coup physique que énergétique. Alors, pour toutes les personnes qui ont un peu quelques notions au niveau de ce que c'est de faire un travail énergétique, je pense qu'on sait tout de suite que bah, c'est normal, du coup, d'être fatigué. Et alors, un travail énergétique, là, du coup, un nettoyage sur plusieurs jours, oui, c'est normal d'avoir besoin de se reposer et surtout de prendre soin de soi et de venir justement apporter au corps tout ce qu'il a besoin pour que ce nettoyage il se fasse le plus en douceur possible.
Et donc toi, tu fais ça du mieux que tu peux quand tu as tes règles, tu te reposes et tu prends
C'est ça.
soin de
Alors, c'est très, très marrant parce que, alors, ça, après, c'est connaître justement son cycle.
toi.
Mais moi, en fait, je ne le prévois pas. Je devrais le faire. Donc, je me rends compte que très souvent, la semaine où j'ai menstruation, c'est les semaines qui sont les plus chargées. Mais ça, c'est moi. C'est à moi, justement, en fait, de prévoir en avance. Le plus intéressant, ce serait justement de prendre dans son agenda. Et quand on sait, si on a quand même ses menstruations de manière assez régulière, quand on sait quand est-ce que ça tombe, on essaie de se dire, non, attention, cette semaine-là, j'y vais mollo. Je ne me mets pas plein d'événements. Pas comme moi, du coup, qui en général ne fais pas attention et me retrouve avec beaucoup d'événements les semaines. Mais oui, c'est l'idéal, c'est de faire ça. Et au moins, du coup, de se dire aussi, ben justement, par exemple, si on vit avec un partenaire, d'essayer de lui dire aussi, ben, dans ces moments-là, peut-être qu'on a besoin qu'il nous aide un peu plus, parce que bon, ça encore, ça sera un autre sujet super intéressant. Mais de dire que là, il y a besoin d'un petit peu plus de. Ben, de bienveillance et de douceur
Ouais.
pour qu'on puisse justement passer ce... Parce qu'après, c'est ça, on dit souvent aux femmes qu'elles sont de mauvaise humeur durant cette période-là. Pas toutes, mais en fait, alors oui, c'est gentil de mettre ça sur le compte des hormones, je suis d'accord, il y a aussi toujours une part hormonale, mais il y a aussi une part où bah, justement, en fait, la femme, elle est juste tout simplement fatiguée, elle n'a pas l'énergie pour pouvoir en fait être bah, au top, et on lui demande encore des choses, donc c'est un peu normal que ça provoque une certaine frustration et un certain énervement, parce que c'est de dire non, mais je suis épuisée, là, je ne me sens pas capable de le faire, et on me demande encore de faire des choses. Et on ne me comprend pas, j'ai mal ou je suis fatiguée, on ne me comprend pas, on me dit, on se moque en disant non, mais c'est les hormones. Non. Il y a encore bienveillance en fait.
Et de ne pas avoir peur aussi de... Quand on a planifié des trucs, par exemple hier soir, il y a une copine qui nous a demandé de participer à un truc online. Et puis, donc nous, on a participé, mais elle, vu qu'elle a eu ses règles, elle a décidé au dernier moment de ne pas participer parce qu'elle était trop fatiguée. Et j'ai trouvé ça cool parce que qu'elle le fasse en fait, qu'elle dise, bon, ben voilà, c'est moi qui vous ai dit de faire, mais finalement, moi, ça va pas et je vais m'écouter.
C'est ça. Mais ça, c'est super, s'écouter, en fait. Que ce soit parce que, voilà, on a ses menstruations et qu'on est une femme, que ce soit parce qu'on est un homme et que, ben, parce que, bon, on parle beaucoup des femmes, mais les hommes aussi ont le droit d'être fatigués et d'être au bout du rouleau et ils ont aussi tout à fait le droit. Parce que ça aussi, c'est vrai que, alors moi, je travaille particulièrement avec les femmes, mais je pense que ce serait super important aussi de commencer des fois aussi à faire un peu plus de travail avec les hommes de manière générale. Hein. Parce que, en fait, justement, comme on disait, cette énergie de la société qui est très masculine, qui nous pousse à toujours être au top de notre forme, ben, sous prétexte que ce sont des hommes, parce que souvent on oublie qu'on porte tous cette énergie, sous prétexte que ce sont des hommes, ils doivent absolument être tout le temps dans cette énergie masculine d'être au top, encore plus que nous, les femmes. Nous, les femmes, on nous demande de le porter pour soi-disant être à égalité et du coup suivre le rythme. Mais les hommes, on leur met aussi une charge, des fois sur les épaules, pas la même que sur les femmes, mais ils ont quand même une charge à porter, qui est comme assez dingue. Ils n'ont non plus pas le droit, en fait, de pas aller bien.
C'est
Non, eux, ils
vrai.
doivent aussi tout le temps être au top. Et je trouve que, du coup, c'est ça, la société dans laquelle on vit actuellement est très dure. Je pense que s'il y a un côté positif qu'on peut faire ressortir à la situation qu'on a vécue ces dernières années, ne serait-ce qu'avec les confinements, c'est que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont ouvert les yeux sur le fait que leur mode de vie qu'ils avaient n'était pas cohérent et qu'ils avaient besoin de plus de temps pour eux, de vivre peut-être autrement, que l'emploi du temps soit allégé. Ça, par contre, je pense que c'était comme le gros côté positif. Il y a plein de personnes qui ont ouvert les yeux en se disant ah « mince, en fait, je me traite vraiment mal !» C'est boulot, métro, dodo, comme on dit, et il n'y a rien d'autre. Et je prends pas soin de moi, et je suis dans cette hypnose-là hebdomadaire où je fais tout le temps la même chose parce qu'il le faut.
Mais qui dit ça? Qui dit il le faut justement?
Et ça,
Un
c'est
autre sujet très intéressant.
Hyper intéressant parce que ça revient de toute façon à parler de tout le conditionnement qu'on a depuis qu'on est petit, en fait. Et le conditionnement qu'on s'impose nous-mêmes aussi parce qu'on veut coller à ce que la société, enfin, la société, les pubs et tout ce qui nous entoure nous demande. Et d'ailleurs,
Exactement.
en parlant justement de justement parler de tout ce qui nous conditionne depuis qu'on est enfant, bah, dans une autre des clés que je peux apporter pour cette petite pharmacie mentale, ce serait se reconnecter en fait à son enfant intérieur. On dit se reconnecter à son enfant intérieur. Bah, comme on disait tout à l'heure, faire une liste des choses qui nous font du bien. Bah moi, en fait, ce que je propose souvent, c'est de faire une liste des choses que, quand on était enfant, on adorait faire. Alors, très souvent, là, chez certaines personnes, il y a un blocage. Non, mais je ne suis pas un enfant. Je ne vais pas marquer. Quand j'étais petite, j'adorais me déguiser en princesse. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de cette info? Non, mais moi, souvent, je dis, mais si, en fait, notez toutes ces choses-là. Parce que, des fois, il y a quand même une partie encore de nous, de cet enfant intérieur qui vit en nous, qui dit, c'est vrai que, bah, par exemple, c'est vrai que j'aimais bien me déguiser. Hein. Mais en quoi est-ce qu'un adulte ne pourrait pas le faire aujourd'hui? Pourquoi pas? Et ne serait-ce que dire, par exemple, se déguiser en princesse, bah pourquoi pas? Aller dans une boutique où il y a des vêtements, même si c'est des robes hors de prix, rien ne vous empêche d'aller les essayer. C'est gratuit. Et de se faire
C'est
plaisir comme
vrai.
ça. C'est un exemple comme un autre. Mais par exemple, justement, ce serait dessiner, chanter, construire une cabane. Enfin, il y a plein de choses comme ça que quand on est petit, on rêverait de faire et on s'en déconnecte complètement une fois adulte. Alors que justement, se reconnecter à ses rêves d'enfant, à ces choses qu'on aimait faire en étant enfant, ça apporte beaucoup aussi d'énergie. Ça, c'est aussi c'est un sujet qui pourrait être très intéressant, auquel je travaille aussi avec mes cercles de femmes, c'est les archétypes, en fait. Alors, il y a du féminin, mais du masculin aussi. Hein. Quand je dis tous ces conseils, ça concerne aussi les hommes. Mais très souvent, en fait, il y a une espèce de facette de nous qui est très connectée au côté très enfant. Et c'est une facette qu'on laisse totalement de côté, alors que c'est la facette de notre être qui peut nous apporter le plus d'énergie. Parce que justement, c'est une facette qui est très active, qui est très énergique, très joyeuse. Et quand on se donne l'autorisation, justement, en faisant des choses qu'on aimait faire quand on était enfant, quand on se donne l'autorisation de se reconnecter à cette facette de nous, ben on se rend compte que d'un coup, ça apporte beaucoup d'énergie aussi. Et là, je parlais beaucoup d'activité, mais quand je dis se reconnecter à son enfant intérieur, ça peut aussi passer par le fait de manger quelque chose qu'on aimait bien quand on était enfant et qu'on n'a pas mangé depuis super longtemps. Il y a aussi un peu le côté, un peu aussi les odeurs, un peu la madeleine de Proust, sentir quelque chose qui nous rappelle, ou même regarder des photos de quand on était enfant. Alors, je dis ça forcément, comme je disais avant, c'est un peu le attention, on n'est pas tous pareils. Je sais que pour certaines personnes, se reconnecter trop à des événements de l'enfance, ça peut être plus délétère qu'autre chose. Mais pour les personnes pour qui ça peut être positif, ça peut être du coup une idée de chercher à se reconnecter à cet enfant.
C'est de retrouver le jeu, en fait, qu'on ne s'autorise pas forcément quand on est adulte. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire qui sont des trucs d'adultes. L'administratif, par exemple, je déteste faire ça, donc c'est mon exemple. Et c'est vrai que une fois, j'ai fait un coach. J'étais en coaching et la coach m'a dit, mais en fait, ce que j'entends là, c'est que tu ne t'autorises pas ou que maintenant, tu vas t'autoriser plus à jouer aujourd'hui, quoi. Parce que cette journée-là, j'avais vachement d'anxiété avec ma to-do list. Et c'est vrai, c'est de s'autoriser à faire quelque chose, voilà, qui nous fait plaisir, qui nous donne de l'énergie.
Je pense que c'est aussi souvent beaucoup lié à « mais qu'est-ce que les gens vont dire ?» Est-ce que des fois, c'est... Et puis même, c'est très marrant parce que j'ai l'impression que cette émotion de « qu'est-ce que les gens vont dire ?» elle est souvent même présente alors qu'on est seul. Et puis, il n'y a personne qui peut nous voir. C'est comme si on dirait qu'on est observé et que quelqu'un risque de sortir à un moment nous dire « mais t'es ridicule, pourquoi tu fais ça ?» Alors qu'en fait, et c'est une notion qui est, c'est marrant parce que c'est une notion que j'ai revue beaucoup, qui m'est revenue beaucoup ces derniers jours, c'est en fait les gens, ils s'en foutent. Même si c'est quelque chose qu'on est en train de faire devant d'autres personnes, les gens, ils sont des... N'oubliez pas, vous personnellement, vous n'êtes pas du tout en train d'être focus sur ce que les autres font ou en train de les juger ou en train d'analyser tout ce qu'ils font. Peut-être vous allez regarder quelqu'un, ça va durer un quart de seconde et vous allez déjà passer à autre chose parce que vous êtes dans votre tête, votre vie, vos préoccupations. Alors les gens à l'extérieur, ils vont peut-être un quart de seconde, ils vous auront déjà oublié quand ils auront tourné dans l'autre rue. Alors, c'est vrai. Fou de ce que les gens vont dire, de ce qu'ils vont penser. Si vous, ça vous fait plaisir et que ça vous remonte vos énergies, que ça vous met en joie, il faut juste le faire. Ne serait-ce que, bah, par exemple, j'imagine, là je suis en train de penser, parce qu'en plus, bon, voilà, c'est à côté, Europa Park, je sais pas si tu vois, il y a un endroit où il y a des jets d'eau. Je sais plus à côté de quelle attraction c'est, il y a des jets d'eau. Et ben souvent il y a des enfants, mais pourquoi il y aurait pas des adultes aussi? Enfin, il y en a aussi des fois. Et là, bon, on va dire c'est un peu plus propice parce que voilà, c'est un parc d'attractions, du coup on se lâche un peu plus. Mais voilà, mais faire ça, aller s'amuser avec des jets d'eau. Au contraire, en fait, si les gens voient que vous êtes en train de vous amuser, il y a quand même au moins 80% des personnes, ils vont pas être en train de dire mais qu'est-ce qu'il fait? Ils vont plutôt être en train de rigoler avec et de se dire que même eux, ça les remplit de joie de voir quelqu'un qui est en train de dégager de la joie. Et on est trop des fois focus en train de se dire non, ça va être négatif, mais pas du tout. Et quand on rayonne de joie, en fait, les gens, ça leur apporte aussi de la joie. Et ça, c'est super marrant parce que du coup, je passe à chaque fois d'un truc à un autre que je voulais parler.
Tu fais ça très bien.
C'est quelque chose, c'est sourire. C'est quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'en fait, sourire, quand on sourit, il y a tout le mécanisme dans notre cerveau qui se met en marche et qui va faire qu'on va avoir une production d'hormones du bonheur. Et ce qui est génial avec le cerveau, c'est que même si on est là d'un coup en train de faire la tête, juste le fait de se forcer en fait à sourire, le fait de faire le mouvement, et bien le cerveau, lui, va croire que vous êtes vraiment en train de sourire pour une raison quelconque et quand même produire en fait ces hormones du bonheur. Et il y a aussi après cet effet miroir où du coup, si on voit quelqu'un sourire et qu'on limite et qu'on se met à sourire pareil, et quand on est en train de sourire, souvent, si d'autres personnes nous voient, ça va leur donner envie de sourire. je trouve ça génial, du coup, parce qu'on est vraiment en train de faire un espèce de cercle vertueux du sourire. Et justement, si le, c'est aussi du coup quelque chose d'intéressant pour savoir remonter ses énergies, c'est que si on se dit, d'accord, donc en fait, là, je suis en train de faire la tête, je suis pas trop bien, si je m'efforce de sourire, encore mieux en plus si on est face à un miroir, parce que du coup, en plus, là, on a les yeux qui sont en train de vraiment voir le sourire, ça envoie encore plus un message encore plus fort. Si mon cerveau, il croit que c'est la réalité et que je suis heureux juste parce que j'ai souri, c'est-à-dire qu'en fait, mon cerveau, il a une certaine malléabilité qui est assez intéressante, où il a un peu du mal, en fait, à faire la différence entre la réalité et ce que j'essaie de lui faire croire. Et en fait, je dis ça parce que il y a un truc intéressant, c'est qu'en fait, le cerveau, il a du mal à faire la différence entre l'imagination et la réalité. Je pense peut-être que tu vois déjà où je veux en venir, c'est que des fois, on va être en train de se faire des films dans notre tête et notre cerveau va du coup se dire « c'est la réalité, là ». Par exemple, si je suis déjà en train de me stresser parce que j'ai un rendez-vous important dans quelques jours, mon cerveau, lui, il n'a pas cette notion en fait, de temporalité, il n'est pas en train de se dire « c'est dans quelques jours ». Il est juste en train de il s'adapte à votre pensée, vous êtes en train de penser à ce moment comme s'il était déjà là. Bah lui, il va tout de suite enclencher tous ces effets de négatifs, de stress, d'hormones du coup du stress. Mais du coup, si dans ce sens ça fonctionne, dans l'autre sens, c'est possible aussi. Donc là, ça revient encore avec cette idée aussi des mantras, si je suis en train de me dire quelque chose de positif ou si je ferme les yeux et je me concentre en fait sur j'essaie de visualiser quelque chose de joyeux, et bah automatiquement, mon cerveau va se mettre à produire en fait des hormones du bonheur. Et donc, là, c'est aussi quelque chose où on peut se dire c'est hyper important quand on est, par exemple, en train de regarder un film, une série, qu'on est en train de lire un livre, ou du coup, par rapport aux pensées qu'on est en train de se dire, de choisir des choses qui sont beaucoup plus positives, parce que notre cerveau, lui, va réagir. C'est-à-dire, si vous êtes en train de regarder un film d'horreur et que, du coup, vous êtes à fond dedans, le cerveau, lui, croit qu'on est en train de... Nous aussi, on est en train d'être pourchassé par un tueur en série. Et du coup, les émotions, les hormones qui sont en train d'être produites, c'est des hormones du stress. Donc on est là vraiment en train de se faire du bien. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas arrêter de regarder ces films, surtout si ça fait plaisir d'une certaine manière, mais du coup c'est intéressant de se dire que essayer du coup de se remplir avec des choses comme ça qui sont beaucoup plus positives. C'est pour ça que je disais par exemple dans sa liste de choses qui nous font du bien, j'espère regarder une série qui est un petit peu marrante. Par exemple, moi, si je peux en donner une qui est hyper comme ça, hyper pep, c'est The Good Place, je le dis avec l'accent bien français. C'est un truc qui est assez marrant, c'est un peu bête comme ça, mais ça parle de la notion de vie, de mort, et c'est vraiment très léger. Et ça, c'est quelque chose, même ne serait-ce que par l'univers qui est très coloré, forcément, là, on regarde quelque chose, on voit des gens qui rigolent, notre cerveau, lui, il est en train de se dire, ah oui, du coup, là, il y a plein de gens qui sont heureux, toi aussi, du coup, tu souris et tu l'es. Et donc ça, c'est hyper, hyper important de faire attention, du coup, à ce à quoi on se nourrit, en fait, au quotidien. Ouais.
Ce qu'on consomme aussi à ce niveau-là. La télé, le téléphone, tout en fait.
C'est ça. Et alors après, parce que ça serait pas marrant si tout était si simple, moi j'aime bien la complexité, la dualité des choses, c'est que parfois ça peut avoir du bon de, par exemple, ne serait-ce qu'écouter une musique qui est triste, regarder un film qui est triste, parce que en fait, ça peut permettre en quelque sorte de venir extérioriser des choses qu'on n'arrive pas à se laisser extérioriser. Parce que justement, pareil, pour se remonter en fait ces énergies, il faut savoir que si on est à plat, je disais donc pas culpabiliser quand on se sent pas bien, mais ne pas culpabiliser, ça laisse aussi en fait entendre qu'il faut qu'on s'autorise à ce que les émotions nous traversent. Il faut s'autoriser à, si je me sens pas bien, ne pas essayer de tout enfouir parce que c'est pas bien, non, j'autorise les émotions en fait à ressortir. Alors déjà, c'est pas facile, mais la première notion en fait qui est importante de comprendre, c'est que en fait les émotions elles ne nous définissent pas. C'est pas parce que par exemple je suis en colère que je suis colère tout le temps. Non, c'est une émotion, elle me traverse tout simplement. Et justement, si je la laisse me traverser et que j'essaie pas de la faire taire, eh ben elle va juste traverser. Quand j'essaie de la faire taire, je suis en train de la tapisser au fond de moi.
Ouais.
Et justement, autoriser ces émotions en fait à s'exprimer, ça peut pas quand je suis en colère, m'autoriser à crier. Je suis en train de dire ne criez pas sur votre conjoint, sur vos enfants ou sur vos amis. Mais je sais pas, aller faire un tour en forêt ou même dans votre voiture quand vous êtes en train de conduire, personne ne vous entend. Criez. Pareil, là souvent on a la petite voix dans la tête qui dit mais c'est stupide. Et si quelqu'un m'entend, personne
ne si quelqu'un m'entend. Ouais.
Si ça fait du bien, faites-le. Ou alors s'inscrire à un cours de boxe. Ouais. Là, je suis en train de parler de la colère, mais pour la tristesse, ça va s'autoriser à pleurer, tout simplement. Et des fois, justement, quand ces émotions sont un petit peu... Parce qu'il y a certaines personnes, c'est beaucoup plus compliqué de les extérioriser. Bah, justement, alors pourquoi pas, dans ce cas-là, écouter une musique qui va être un peu triste ou regarder un film qui est triste. Parce qu'on se dit, ouais, bah non, il y a certaines personnes, ça ne va pas marcher, ils ne veulent pas. Au contraire, quand ils sont tristes, ils veulent regarder quelque chose pour remonter leurs énergies. Enfin, remonter leurs énergies, leurs émotions et être plus en forme. Mais des fois, ça peut avoir quelque chose, en fait, d'intéressant de regarder quelque chose qui va justement nous laisser le choix. Parce que là, on se dit, non, mais je ne suis pas du tout en train de pleurer par rapport à moi. Je suis en train de pleurer à cause du film. On est comme en train de relâcher cette émotion qui était là et qui avait besoin de sortir.
C'est super.
Et là, c'est l'équilibre, en fait, à avoir. Mmh. Et d'où l'importance de s'écouter pour savoir ce qui nous correspond mieux.
Et encore une fois, on en revient à la pleine conscience pour vraiment être dans le moment et pour savoir, en fait, ce dont on a besoin. Et je trouve que même quand on sait, des fois, on ne le fait pas forcément. Par exemple, quand je suis rentrée ce matin, je savais très bien que... Il fallait que je processe des trucs. Il fallait que... Je m'étais dit en chemin, ah, je vais écrire dans mon journal pour y voir un peu plus clair pour ce qui s'est passé. Il y a eu quelques trucs et plein d'émotions. Et même, je savais même pas quelles émotions vraiment étaient là. Je me sentais calme à l'intérieur, mais je remarquais que dans ma tête... Ok, il y a plein de trucs qui sont en train de se passer et je sais même pas en fait ce qui j'arrivais à le regarder comme quelqu'un qui observe, mais bon bref, ce que j'aurais dû faire, c'est écrire. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai ouvert mon ordinateur pour faire des recherches sur internet. Voilà, donc même quand on est en pleine conscience, c'est pas toujours évident de faire exactement ce qu'on sait que ce serait bien pour nous.
Mais après, c'est aussi pour ça justement que je disais cette image en fait du développement personnel où tout a l'air très lisse et on fait tout ce qu'il faut. Je dis que c'est pas réaliste parce que on est humain. Ça se saurait si on arrivait tout le temps à faire ce qui est bon pour nous. Non, c'est pas si simple que ça. Il y a plein de choses qui se jouent dans le fait que des fois on n'arrive pas à faire. Alors qu'on sait très bien qu'il faut faire ça parce que c'est ce qui nous ferait du bien. Il y a plein de choses qui se jouent et c'est souvent parce que comme on disait avant, le fait de penser qu'on est des fois moins intéressant que les autres, moins important que les autres, alors non, ça, je laisse de côté, je le ferai plus tard et on le fait jamais. Mais c'est pas grave. Là aussi, c'est ce que je trouve c'est intéressant et je le dis pour toutes les personnes qui vont écouter le podcast, c'est pas grave en fait. Si vous faites pas quelque chose alors que vous étiez dit non, mais je veux le faire parce que c'est bon pour moi et vous l'avez pas fait, c'est pas grave. Chaque chose en son temps, c'est ne serait-ce que des fois quand on se dit nouvelle année, je me fais plein de nouvelles résolutions parce que c'est bon pour moi. C'est super hein, d'avoir des buts, des idéaux, mais c'est pas la peine de vouloir viser non plus quelque chose qu'on se sent pas en fait capable de faire. Et ben si c'est pas pour cette année, ce sera pour une autre année, hein, c'est pas grave. L'important en fait, je me dis, l'important en fait, c'est de toujours essayer de faire en sorte que ce qu'on fait, ça nous fait du bien et qu'on réussisse à la fin de l'année à pouvoir se dire j'ai réussi à être meilleur que l'année d'avant. Et ça peut juste passer par un truc, juste une chose qu'on a réussi à faire durant l'année, hein, mais juste d'être fier de soi en fait à la fin du parcours. Peut-être que ça va être, moi par exemple, cette année, il y a un truc tout bête, c'est que j'ai un peu peur de conduire sur autoroute. C'est un truc de rien du tout. Si cette année, c'est la seule chose que j'arrive à réaliser par rapport à toutes les choses que j'aimerais réaliser, je pourrais quand même à la fin de l'année me dire, j'ai quand même réussi à dépasser cette peur.
Et souvent, on ne s'en rend pas compte des trucs qu'on a réussi à faire ou réussi à surmonter. On a tendance à voir seulement ce qui s'est mal passé.
C'est vrai. Et ça aussi, c'est quelque chose. Et pareil, même ça, je tiens aussi à dire qu'il ne faut pas s'en vouloir en fait, d'être comme ça. Moi, je sais que souvent, on m'a souvent répété quand j'étais ado, mais tu vois que le côté négatif des choses. Et du coup, je culpabilisais beaucoup. Je me disais, c'est pas normal du coup en fait que je sois comme ça. Et ben encore une fois, là, je suis là pour vous dire déculpabiliser. Et ben c'est pas vraiment votre faute. Parce que le cerveau, pareil, en fait, c'est assez intéressant, mais au niveau de notre construction et de l'évolution de de l'humain, le cerveau, lui, il met beaucoup plus de temps, en fait, à se modifier avec les siècles, avec les nouvelles générations. Et il est toujours un peu dans cette espèce de format de survie.
Ouais.
Et donc, à partir du moment en fait, où il y a quelque chose qui risque en quelque sorte de nous mettre en danger, lui, il fixe sur le négatif parce que son but à notre cerveau, c'est de nous maintenir en vie et de nous sauver. Donc, forcément, il se focus sur le négatif parce que c'est ce qu'il doit faire pour réussir à trouver des solutions et pour réussir à savoir, OK, est-ce que là, on attaque ou est-ce qu'on fuit ?
Ouais.
Donc, le cerveau, il est fait, en fait, comme ça. C'est pour ça que, forcément, c'est beaucoup plus compliqué de réussir à méditer, à se répéter des mantras positifs, à faire toutes ces choses qui, certes, sont hyper bien et hyper intéressantes, mais c'est normal que ce soit compliqué. Donc, oui, c'est normal si du jour au lendemain, vous dites, je vais commencer la méditation, vous allez le faire une fois, j'arrive pas, ça me saoule, c'est nul. Mais c'est normal. Le cerveau, il est pas fait. Enfin, de base, il est pas vraiment fait pour ça. Ça demande une espèce d'effort. Et on n'aime pas trop des fois faire des efforts, mais c'est ça en fait.
C'est aussi la société de vie, il faut tout avoir tout de suite, il faut avoir un résultat tout de suite. Et le développement personnel, c'est tout sauf ça en fait. Tu peux pas. J'avais fait un podcast une fois, on m'avait demandé mais c'est quoi le quick fix, tu vois, c'est quoi, qu'est-ce que tu peux. Et le premier truc qui m'est venu en tête, c'est il n'y en a pas. Tu poses tes fesses et tu médites ou tu fais autre chose, tu vois, mais tu le fais. Et moi, je travaille beaucoup avec la méditation. Mais oui, il y a d'autres choses, mais ça n'existe pas vraiment, quoi. Si
non,
tu veux
ça
vraiment
pas.
Aller en profondeur.
Et alors, après, forcément, ça fait un peu peur. Du coup, on se dit, OK, donc ça demande de l'effort. Mais par exemple, quelqu'un qui est vraiment au fond du trou, ça fait plusieurs mois que le moral, il est vraiment à plat, qu'il n'y a plus rien, pas de motivation, oui, alors là, je suis pareil, il n'y a pas question d'être en train de culpabiliser et de se dire, non, mais moi, là, je suis incapable de pouvoir, en fait, mettre cette énergie à faire un effort parce que j'ai plus rien. Et là, c'est encore une autre notion que je trouvais importante d'aborder, c'est que quand on est vraiment à plat et qu'on se sent au bout du bout, en fait, on a le droit de demander de l'aide. Parce que ça, souvent, c'est aussi quelque chose qu'on ne s'autorise pas. On ne s'autorise pas à aller bien et on ne s'autorise pas à ne pas aller bien. Et on ne s'autorise pas à demander de l'aide. Donc, en fait, on reste dans cette espèce de bulle négative. Alors, je sais, ce n'est pas facile de demander de l'aide non plus. Tu voulais dire quelque chose ?
Je voulais juste dire, des fois, on s'autorise aussi à aller... Des fois, on ne s'autorise pas à aller bien aussi. C'est le lapsus que tu as fait.
Oui, mais c'est vrai que c'est vrai.
C'est un autre sujet, mais c'est vrai aussi que... On culpabilisait aussi d'aller bien. Hier, je discutais avec des copines qui avaient plein de problèmes divers et variés. Et j'avais rien à leur dire. Mais bien sûr, j'ai aussi ma vie n'est pas toute rose. Enfin, franchement, ça va. Mais je ne trouvais rien. Je ne pouvais pas râler. Ce n'était pas possible. J'avais rien qui... Ça allait, ça va. Et je me disais, maintenant, ça va. Je culpabilisais presque. C'est comme quoi la culpabilité, c'est un grand thème chez moi. Mais voilà. Donc, on demande de l'aide si ça va vraiment pas. Et on est...
Et parfois, on peut avoir un peu peur aussi de demander de l'aide. Moi, ce que je dis, c'est qu'on le fait cercle par cercle. C'est-à-dire, d'abord, on essaie de voir est-ce qu'on peut demander de l'aide à notre famille, à nos proches, à nos amis, à notre conjoint. Forcément, je sais que dans la réalité, des fois, on n'a pas de conjoint, on n'a peut-être pas vraiment de famille, on n'a peut-être pas vraiment d'amis et on ne se voit pas en fait, demander de l'aide à ce cercle-là parce qu'il n'est pas vraiment existant ou alors parce qu'on ne se sent pas à l'aise de demander à ces personnes-là. Et c'est là, en fait, que je veux dire, des fois, on a le droit du coup d'aller aussi demander de l'aide à un professionnel. Parce que des fois, il y a beaucoup de gens en fait, qui n'osent pas demander de l'aide, par exemple, ne serait-ce qu'à leurs proches, parce qu'ils disent non, mais je vais pas leur faire perdre leur temps. Je vais pas être là en train de prendre toute leur énergie à dire tout ce qui va pas dans ma vie. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a des professionnels en fait aussi pour ça. Et ça, je trouve aussi parce que moi, c'est aussi une notion quand j'étais adolescente qui je pensais aller voir par exemple une psy. Pour moi, c'était non en fait si tu fais ça, c'est parce que t'es fou, ça va pas trop. Enfin, c'est un peu ça. Honteux.
Ouais.
Alors que moi, ce que j'adore répéter, c'est qu'on devrait tous aller voir un psy à un moment de notre vie et ça devrait être remboursé. Ça devrait même être pas obligatoire parce qu'on peut pas forcer quelqu'un à aller faire ça, mais ça devrait limite être offert. Allez, hop, une séance au moins déjà juste parce qu'il faut se dire que quand on n'ose pas, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en fait se confier justement à leurs proches, à leur famille, à dire quand ça va pas. justement par peur d'embêter. Mais après, ça, c'est aussi encore un autre sujet, par peur de prendre trop de place, par... Ça, c'est aussi encore la racine, elle est hyper intéressante à aller étudier. Et se dire, bah là, en fait, oui, d'accord, il faut payer, mais là, il y a aussi des solutions. Hein. Faut pas... Il y a toujours des solutions, même au niveau financier. Ne serait-ce que des fois, aller demander aux professionnels en question, parce que quand on en parle, des fois, il y a moyen de faire des prix ou des choses comme ça. Il y a plein de solutions qui existent. Et se dire que là, c'est un moment vraiment qu'on prend pour soi. C'est un rendez-vous, en plus, qu'on cadre bien dans son planning, donc on ne peut pas vraiment y échapper. C'est un moment qu'on prend pour soi. Et un moment où, en fait, on a cet espace pour parler. Et on a juste quelqu'un qui nous écoute et qui est là et qui va essayer de nous aider en fait à trouver des solutions. Je trouve que c'est tellement merveilleux en fait. Et c'est le cas des coachs. Je parle de psychologues, mais des coachs, même nous, en naturopathie, ça fait partie vu que c'est vraiment le bien-être global. C'est tellement précieux en fait. On a la chance que c'est des choses qui évoluent de plus en plus. Ouais. On peut beaucoup plus facilement trouver. Alors pareil, je tiens à dire que des fois, on va essayer quelque chose et ça ne va pas fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber, c'est peut-être que ce n'était pas la bonne personne ou alors pas le bon praticien, tout simplement. Peut-être qu'on va voir un psy et ça va pas bien se passer et on va aller voir une énergéticienne avec qui on va quand même pouvoir parler, ça va mieux se passer.
Ouais.
Juste, il faut tester.
Être ouvert, ouais.
C'est ça. Et alors, bon, bien sûr, après, il y a toujours aussi le truc que je trouve de faire très attention parce que oui, c'est super, ça se développe beaucoup, on arrive beaucoup plus facilement à trouver quelqu'un d'adapté. Mais vu que ça se développe beaucoup ici, il faut faire attention quand même à essayer de choisir quelqu'un qui est quand même formé et qui va vraiment pouvoir nous aider parce qu'on ne joue pas non plus avec, avec sa santé, qu'elle soit physique ou mentale. Juste ça aussi, je trouve que c'est important de le dire, faites quand même attention quand vous choisissez d'aller voir quelqu'un, de vérifier que la personne est quand même formée. Parce qu'il y a plein quand même de... Il y a plein de métiers, de nouveaux métiers comme ça qui existent où des fois, ce n'est pas forcément bien contrôlé. Et n'importe qui, du jour au lendemain, peut se dire coach, peut se dire naturopathe. Donc, faire attention d'aller voir quelqu'un avec qui on peut se sentir vraiment en confiance et savoir que ça va pouvoir nous aider.
Ouais. Super. Est-ce que tu as envie de partager, tu as déjà dit quelque chose qui t'ont fait te sentir bien, comme aller dans cette parfumerie ou... te reconnecter avec ton enfant intérieur. Est-ce que tu as envie de donner des petits détails comme ça ou de toi, qu'est-ce que tu fais?
Si, alors moi, c'est quelque chose, pareil, hein, je dis toujours, c'est pas parce que je suis naturopathe que je suis parfaite et que, je pas du tout, pas tout lisse, je continue encore moi aussi à cheminer forcément et à trouver mes petits trucs qui marchent pour moi. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est surtout en 2021 que c'est venu, en fait. Et pareil, parce que moi, j'ai sauté le pas aussi de demander, moi, de l'aide, hein, parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés, on dit souvent, mais justement, il faut savoir aussi se faire accompagner. Et en fait, moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir quelqu'un, en fait, avec qui parler, avec qui pouvoir progresser. Et en fait, ça m'a permis de me donner l'autorisation, comme on disait, de se reconnecter à mon enfant intérieur. Moi, j'ai toujours été très... c'était très cérébral quand j'étais à l'école et que j'étais enfant. Fallait que je fasse soit médecine. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait la première année d'école d'infirmière. J'étais très, très fière d'être dans le monde médical. Et donc, vraiment, pour moi, il fallait toujours que le parcours soit très carré, très... Et en fait, petit à petit, c'est très marrant parce que quand j'étais plus jeune et que des fois, quand on est à l'école, on fait ces tests pour savoir quel métier nous irait le mieux. Ouais. Moi, j'avais toujours, à chaque fois, c'était presque à égalité, c'était le médical ou l'art.
Ah ouais.
Sauf que moi, très dans ma petite case où il faut bien respecter tout ce qui est nickel, je me dis, l'art, non, on va aller dans le médical. Et en fait, tout ce travail que moi, j'ai commencé à faire, ça m'a permis de me dire qu'il n'y a pas à choisir vraiment, en fait, des fois. Des fois, on se contraint, en fait, à dire, je dois juste choisir quelque chose. Quand on fait ça, du coup, on se dit, je choisis juste une facette de ma personnalité, comme si c'était mal... d'avoir en fait une personnalité qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, avec plein de facettes, alors qu'on est tous comme ça. Et moi, ça m'a beaucoup aidée, justement, pour remonter mes énergies, ça a été d'accepter en fait que je suis pas... je suis un être complexe et que j'ai beaucoup plus de facettes, que je peux des fois donner l'impression aux personnes que je vais être quelqu'un de très timide et de très calme et de très posé, alors que, alors oui, je suis comme ça, mais je ne suis pas que ça. Et je sais que des fois, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec cette notion. C'est souvent, justement, c'est l'effet miroir. Hein. Quand on n'a pas, du coup, nous-mêmes, quand on a du mal avec cette notion de se dire « Non, mais je suis plus complexe, que je suis pas que ce que je montre aux gens », Eh ben, on a du mal à accepter que chez les autres en face, ces personnes-là, c'est beaucoup plus complexe aussi, beaucoup plus riche. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de me dire, bah, c'est vrai, je suis quelqu'un qui peut être très calme, je suis douce, je suis très ouverte. Ce côté un peu très, c'est pareil, un archétype, en fait, qu'on travaille dans le féminin, très mère, très, voilà, dans le don. Mais à côté de ça, je suis quelqu'un qui a une facette qui est très artistique, qui aime jouir de la vie, aller voir des expos, écouter de la musique, passer du moment avec mes amis. Et des fois, on se dit, il y a des choses qui peuvent pas coller, alors que, bah, si, justement, c'est tout ce qui est intéressant. Et quand on s'autorise à incarner vraiment tout ce qui nous parle et tout ce qui nous fait vibrer sans se poser de la question de est-ce que c'est logique? Est-ce que ça, je peux être ça et ça à la fois? Quand on laisse tomber ça, en fait, et bah, là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a ce feu intérieur qui se remet à brûler, et bah, et ça aussi, c'est retrouver son énergie. Apprendre à se connaître et à accepter d'être, en fait, celle qu'on veut, celle qu'on veut être. Celui qu'on veut être, comme dit, pas que juste les femmes. Et moi, ça m'a beaucoup aidée.
Merci beaucoup, Mélina. Je pense que les auditeurs ont eu plein de petites clés avec lesquelles expérimenter, s'ils le souhaitent, bien sûr. Et on peut te retrouver. Donc, tu as parlé de ces cercles de femmes que tu organises. Et ça aussi, c'est en ligne.
Alors, c'est quelque chose que j'ai envie de commencer en fait avec une prof de yoga qui est aussi dans le coin en fait de où je suis. Et normalement pour le printemps, il y aura sûrement, bon, ça ira un petit peu mieux aussi avec le Covid, des ateliers en fait comme ça de cercle de parole en pleine nature.
Donc dans le coin.
Et possiblement peut-être que j'en ferai aussi en ligne s'il y a de la demande.
Super. Peut-être que je viendrai aussi.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Mélina. Et
merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.